Vous écoutez Des campagnes en mouvement, cinquième saison du podcast sur les ruralités imaginé et réalisé par les étudiants du master journalisme de l'université Bourgogne-Europe. Cette saison documente des isolements fabriqués par des politiques publiques qui mettent en mouvement par la contrainte. Prendre la voiture plutôt que le train parce que la petite ligne est fermée ou que le TGV traverse sans s'arrêter, devoir aller au bistrot et à la boulangerie du village d'à côté, monter à bord d'un van pour parler santé psychique et violence sexuelle dans des milieux où tout le monde se connaît, apprendre à se servir d'un smartphone pour accéder à ses droits. Elle rend compte aussi de mouvements nés de trajectoires individuelles, des néo-ruraux, parfois néerlandais, toujours CSP+, qui s'installent et recomposent des territoires. Des mouvements qui, parfois, invitent à une nostalgie du temps d'avant, tout aussi fabriqué. Dans une boîte de nuit, on esquisse le portrait d'une jeunesse rurale qui danse sur des années 80 un peu fantasmées, bien aidée par ses aînés qui entretiennent la flamme d'un passé idéalisé. Le mouvement, les remous, c'est aussi un vote RN qui s'assume et des amitiés qui perdurent malgré tout, en se parlant, ou plutôt en faisant ensemble. Ce sont toutes ces facettes du mouvement dans les campagnes de Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté que les étudiantes et étudiants ont choisi de partager. Bonne écoute.
Ils sont les meilleurs ce soir, ils sont où ?
La belle époque, la fête, c'était mieux avant. Un documentaire de Hippolyte Sansaigne et Victor Lai. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une soirée à Pouilly-Français, une petite commune de Franche-Comté, à 10 minutes de voiture de Besançon. Moi, Hippolyte, j'habite ici depuis toujours. Et depuis petit, il y a un signe qui m'indique que j'arrive bientôt chez moi, devant le rond-point qui marque l'entrée de mon village. Un restaurant, mais aussi une boîte de nuit vintage, la Belle Époque. Directeur de l'établissement, Thomas Mercier décrit ce lieu atypique à l'ambiance des années 80.
Je dirais que la Belle Époque, c'est un lieu multigénérationnel. On accueille toutes les générations qui se mélangent dans la bonne humeur, convivialité. On fait de la à manger, donc les gens peuvent se retrouver autour d'une table pour dîner, pour déjeuner, mais aussi uniquement pour venir boire un verre dans la soirée. Donc moquette rouge à l'ancienne, rideau un peu matelassé, un peu velours rouge, une piste de danse, d'accord, à peu près 200 mètres carrés de parquet en chêne, et des petits lampadaires autour de la piste de danse et des tables qui sont disposées en banquet. Voilà, boule à facettes. Jeu de lumière, mais rien à voir avec une grosse discothèque. En jeu de lumière plutôt réduit, hein, pour faire des choses quand même jolies. Mais on reste sobre, hein. On n'est pas là pour... On ne sabre pas le champagne à la Belle Époque avec des scintillants. C'est pas le style. Hein. On essaie quand même de garder cet esprit-là. Et cet esprit passe quand même par une décoration un petit peu... on ne va pas l'appeler vieillotte, mais un petit peu rétro, comme tu disais. Un petit peu rétro, qu'il faut qu'on garde.
La Belle Époque, c'est surtout une devanture qui n'a pas changé depuis 20 ans. Même typographie, même logo, même néon rouge vif, posé sur ce qui ressemble de l'extérieur à un grand hangar. Quand j'étais petit et que je rentrais de chez mes grands-parents par exemple, c'était la première chose que je voyais en regardant par la fenêtre de la voiture. En vérité, le premier point GPS que j'ai retenu de ma vie, c'est celui-là. Dans mon enfance et mon adolescence, avec les copains, on s'est toujours moqué de la Belle Époque. C'était un peu une blague d'entre nous du genre « ta mère, je l'ai vue à la Belle Époque » ou « ta mère, elle va à la Belle Époque ». Alors qu'en vrai, j'y étais jamais allé. Et c'est pareil, je connaissais personne dans le village qui y allait.
L'établissement existe depuis 20 ans, hein, je pense que ça allait être la suite, mais existe depuis plus de 20 ans. Les années 4, alors traditionnellement, bal musette, donc thé dansant, en repas également, mais et je pense que les années 80, il faudrait demander à l'ancien propriétaire, mais ça fait peut-être depuis quand même 2014-2015 que c'est en route. Il m'a dit, dès qu'ils ont lancé les années 80, l'établissement était rempli. D'accord, il y avait la file devant l'établissement pour que les gens viennent.
Il y a 2 ans, en sortant du foot, les gars ont proposé d'y faire un tour. On y est allé, en fait on était une bande de 6 jeunes habitués aux boîtes de nuit de Besançon, et en fait on a passé une super soirée. C'était trop marrant. Pendant cette soirée, on a rejoint des potes qui y allaient souvent. Ce qui m'a fait me questionner, comment ce lieu, tout droit sorti des années 80, peut intéresser les jeunes de mon coin. Mais aussi, est-ce que ce lieu mérite vraiment que je le méprise depuis toujours ? C'est ce que nous avons essayé de comprendre avec Victor.
Ça Moi qui n'y suis jamais allé, je suis très curieux de découvrir cette ambiance et la raison pour laquelle la musique des années 80 attire les jeunes.
Après être passé devant le videur et s'être servi un verre au bar, nous nous rendons au coin fumeur. Là-bas, nous rencontrons Frédéric, un quarantenaire venu pour un repas d'entreprise. Il découvre l'endroit avec ses collègues.
Bah, le sentiment pour la première fois, c'est pas moi ce que j'ai apprécié, c'est pour en manger. Même qu'il y ait une soirée. Sur les parties repas, t'entends bien tes convives, t'es bien à table, t'as pas le son qui vient de gêner. Et à côté, t'as des gens qui peuvent faire la fête, tout danser, sans même que ça te perturbe. Donc c'est vachement intéressant, je trouve ça super.
Bah, années 80, ça va bien, mais il y a des musiques qu'on connaît même pas, en fait. Un peu plus récente aussi, ce serait sympa. Un peu des mix des deux. Mais il faut qu'ils évoluent un petit peu quand même.
En fait, elle refoule juste son âge. C'est le problème.
Non, je pense qu'il devrait faire un peu de musique. Là, ça va mieux, là.
Bientôt, Aurélie, on va danser le tango, là. On va y aller. D'ailleurs, non, là, je crois que c'est... Là, j'entends une petite musique.
Entre deux pas de danse, deux vieux amis prennent une pause bien méritée. Pour Thierry et Michel, la fête, c'était mieux avant. Ici, à la belle époque, les deux sexagénaires retrouvent un peu de leur jeunesse.
On vient tous les samedis parce qu'en fait, la belle époque, on trouve un bon compromis parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est très familial. Et la danse, pour nous, c'est une thérapie. Donc, ce qui permet d'avoir la fin de semaine où on peut se détendre et puis se vider la tête.
On a créé des liens et c'est ce qui se passe. On est un groupe avec la personne qui vient de vous parler. On est une petite team de gens qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam.
On est devenus des amis.
Et ici, c'est une soupape de décompression parce qu'il y a la danse et il y a une bonne ambiance.
Oui, c'est mieux que Facebook. Tinder, mythique, c'est gratuit, c'est pas payant, et en plus si t'en veux pas, tu rentres pas avec.
Mais la musique, c'est les années 80 qu'on a vécu, avec les années 2000, il y a du rock, des slow, du kuduro, et puis la danse de salon, effectivement, c'est le dimanche, mais le samedi soir, c'est ambiance années 80. Et les années 80, c'est les années, c'est intemporel, dans le sens où ça passe partout.
Dans 40 ans, ça existera toujours.
Voilà.
Alexandra, on est tous dessus maintenant. Et vous, dans 20 ans, tu diras, ah, putain, j'ai interviewé le greloteux en face du bar. Mais il avait raison, ce con-là. Il en existera toujours, ces trucs-là.
Oui, les années 80.
Parce que ça rattache,
voilà, exactement. Et c'est de la bonne musique. Comme, en fait, on est né avec le disco et le funk. Donc ça, c'est toujours resté. C'est de la musique qui fait bouger. C'est énorme.
Professeur en sciences de gestion, Sophie Renaud définit la nostalgie comme une émotion complexe qui se manifeste à travers des objets ou des lieux. Dans un article intitulé « La nostalgie construite », la sociologue Dina Winstein ajoute que la nostalgie contemporaine est un produit médiatique. Son but est de simuler un passé qui a réellement existé, mais sous une forme dépersonnalisée, qui n'a jamais existé et que ceux qui en ont la nostalgie n'ont pas vécu. Aussi, bien qu'elle puisse se traduire par des émotions très fortes, la nostalgie devient dès lors une posture, une image sans consistance.
Les années 80, tout à fait, puisque voilà, c'est notre jeunesse.
Et ce qui est bien, c'est que les jeunes de maintenant cherchent notre jeunesse.
Voilà.
Parce que leur jeunesse ne leur plaît pas, parce que c'est sujet à embrouille dans leur discothèque de misère. C'est baston et compagnie. Ici, ils recherchent de la tranquillité, les petits jeunes. Et avoir des petits chaperons comme les petits vieux qui leur expliquent comment ça marche ici.
Ils veulent être ici parce qu'ils veulent la paix aussi. Ici, il n'y a pas de souci au niveau à bord, aussi bien jeunes qui viennent vers les vieux, toi vieux, nos âges,
ou nous les vieux, ça ne nous dérange pas, des jeunes qui sont non agressifs, qui sont dans le même trip.
Les jeunes, ce qu'ils font maintenant, ils se mettent au bar, ils picolent, et en fin de soirée, c'est la baston, exactement.
En étant vulgaire, est-ce que certains jeunes ne veulent pas accepter, c'est que les années 80-90, qu'ils aiment bien, ça leur rappelle les valeurs qu'ils aimeraient bien avoir à l'heure actuelle, mais qu'ils ne peuvent plus avoir vu l'évolution du monde, les téléphones portables qui rendent gaga, le monde dans lequel on vit. Or que nous, on a eu une jeunesse, et je pense que les jeunes de maintenant voient bien que nous, même avec l'âge, 30 ans après, on est toujours dans le même trip, le respect, on s'amuse. Et les jeunes qui viennent là, ils se rendent compte que bah ouais, les papis, bah, ils font de la résistance. Ouais, papis, façon de dire, mais voilà, qui ont 30 ans de moins qu'eux ou 35 ans, bah, nous, on peut faire pareil. Sauf que vous n'avez aucun repère. C'est pour ça qu'ils viennent ici. Parce qu'ils savent que s'ils vont dans leur boîte où c'est boum boum badagrac, voilà, j'en ai plein les oreilles, et je bois des canons et je me tape dessus à la fin. Super soirée d'un samedi soir.
Nous échauffons sur le parquet de la piste de danse, nous repérons, attablé dans un coin de la boîte, un homme d'une vingtaine d'années venu avec son groupe d'amis. Guillaume a 21 ans, il est garde forestier, mais ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Il préfère l'ambiance de la belle époque à celle des autres boîtes de nuit.
Bon, on était déjà venu il y a quelques temps, puis c'était bien l'ambiance, des bonnes musiques, puis un peu, oui, un peu un style ancien, quoi. C'était cool, on aime bien ça. Bon, comme ça, bon, c'était un peu un petit défi parce que ça avait une réputation un peu d'endroit pour anciens. Donc on s'est dit, bon, tiens, pourquoi pas y aller, parce que vu qu'on aime bien tout ce qui est ancien. Et puis on s'est dit, bon, on va y mettre les pieds. Et puis du coup, en fait, on aime bien ça, donc on revient après.
Qu'est-ce qui t'a plu?
Bon, la musique, voir un peu les anciens s'amuser. Et puis du coup, on voit les anciens s'amuser, donc nous, on est heureux, quoi, à côté.
Et ça te met pas mal à l'aise d'avoir 20 ans au milieu de 50
mètres. Oh non, pas du tout. Non, non, parce qu'on est habitué, enfin en campagne, à chaque fois, on est toujours copain avec des gens de 50, 60 ans, et du coup, bah, on sent bien avec eux, quoi.
Cet aspect intergénérationnel, décrit par Guillaume, est typique de la vie à la campagne. Dans son article « Vieillir en milieu isolé », la sociologue Isabelle Malon écrit que, pour les populations rurales, c'est d'abord la parenté qui organise les relations de sociabilité. Que l'on soit enfant, petits-enfants, cousins germains ou parents par alliance, la proximité géographique des uns et des autres permet des visites brèves, mais régulières.
Parce que ici on est loin de la boîte de nuit traditionnelle comme on peut avoir à Besançon, au Tissing, au QG.
Ouais, ouais.
C'est des lieux que vous fréquentez aussi?
Bah, on y va, enfin, j'y allais avant, mais là-bas, ils mettent que des musiques de sauvage, on n'aime pas trop ça. On préfère des vraies musiques anciennes, quoi. Ouais. On cherche un peu authentique, quoi. Bah, c'est une musique qui ne veut plus rien dire, quoi. Les gens, ils sont là et que, ils font l'apologie de la drogue, des armes et tout. Enfin, c'est pas ce qu'on aime, nous. Ils sont complètement sonnés, donc on aime bien là avoir des vraies musiques. Le problème, c'est que les jeunes, maintenant, ils pensent qu'à niquer, donc ils s'habillent complètement vulgairement, quoi. Alors toi, t'es là-bas et puis ils sont là, ils se frottent, machin. Puis en fait, c'est hyper sexualisé, quoi. Puis c'est pas ce qu'on aime. On sent vraiment que c'est authentique ici. Donc il n'y a aucun jugement. Enfin, un ancien, il peut aller danser tout seul sur la piste, il ne sera pas jugé. Alors qu'en boîte, quelqu'un tout seul, il va être là, il va se faire moquer et tout. Ouais, une bonne soirée entre copains, un lieu un peu plus sûr qu'en ville. Parce qu'on sait quand même que ça craint un peu en ville, quoi. Alors qu'ici, enfin, on risque rien du tout.
T'as une appréhension, par exemple, quand tu vas en boîte en centre-ville, tu te sens plus en sécurité ici
Nous, en tant qu'hommes, on ne se sent pas plus en sécurité parce qu'on sait que on risque pas grand chose. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir chercher la merde et puis après bah, toujours obligé de se tourner pour rien, quoi.
La population elle est un peu plus vient plus de la campagne, tu vois.
Ouais, un peu plus française, un peu plus saine. Oui, bon, on se sent un peu intégré entre nous, quoi. On sent plus soudé entre nous que d'aller voir quelqu'un, je sais pas ce qu'il fait en ville, enfin un chômeur ou un délinquant.
C'est également ce que décrivent les sociologues Bertrand Hervieux et Jean Viard dans leur ouvrage L'archipel paysan. La plupart des ruraux vivent là où ils sont nés, là où ils ont été jeunes. Ils parcourent un territoire que leur père, leur mère et leurs ancêtres ont souvent parcouru avant eux. Ils vivent ainsi dans une prégnance considérable de la mémoire des lieux. C'est le cas de la Belle Époque qui, par son ancrage rural, est un lieu où toutes les générations peuvent se retrouver.
On est un peu copains de chasse en fait, on chasse ensemble et puis du coup bah, on est copains le week-end, quoi, les soirées, pas plus la semaine aussi. Mais...
Oui, je suis même avec eux, tu vois, je suis pas un mec qui va aller en boîte tout le temps parce que j'aime pas les personnages qu'il y a trop là-bas, tu vois. Et ici on retrouve bien ce qui représente la France, quoi, c'est des gens qui se respectent, c'est des bonnes musiques, et puis voilà.
C'est complètement différent et je préfère largement être ici qu'en boîte de nuit ou je sais pas où. L'ambiance est bien mieux, c'est plus respectueux, il y a moins de délinquants, c'est pas pareil et je trouve que l'ambiance est mieux.
Selon l'étude Paroles de campagne, réalité et imaginaire de la ruralité française, réalisée en juin 2025 par le think tank Destin commun, 83% des ruraux se sentent mal représentés par les médias et les politiques. La Belle Époque apparaît donc comme un refuge pour les jeunes ruraux qui se sentent exclus des grandes villes.
Même si la discothèque accueille tous les week-ends des vingtenaires comme nous, le public cible reste bel et bien les 40-70 ans. Le gérant de l'établissement est d'ailleurs particulièrement attentif au brassage des générations et au comportement des plus jeunes.
Donc voilà, il y a vraiment cette clientèle fidèle qui est là. Il faut, on intègre une nouvelle clientèle, il faut que l'osmose se passe bien. Typiquement avec une clientèle un peu plus jeune, 18-25 ans, on est plutôt select, hein, parce que les mentalités sont un peu différentes. Mais voilà, quand ils... On leur laisse une chance en fait, voilà, on essaye de les intégrer à notre lieu de vie, à notre lieu de festivité, et souvent ça match, des fois ça marche pas, des fois voilà, mais souvent ça marche et puis ça se passe super bien quoi. Après on fait attention qu'il n'y en ait pas de trop, qu'il n'y ait pas trop de jeunes si tu veux, pour X ou X raisons, mais si... On reste quand même une boîte plus de 30 ans, si tu veux. On ne l'étiquette pas comme ça, parce que ça ne nous plaît pas, parce que nous, on accueille tout le monde. Justement, quand on en laisse rentrer trop, des fois, on a des petites remarques, des petites réflexions. En fait, ils n'ont pas les mêmes codes. Ils n'ont pas les mêmes codes. Donc, c'est vrai que sur une soirée où il y a de l'alcool, ça peut créer des conflits. Ça arrive très peu. Ça, c'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention à que ça ne soit pas trop, qu'il n'y ait pas 2, 3, 4 bandes de 12 jeunes. Qui font du bruit, les jeunes s'amusent différemment en fait, ils font du bruit, enfin, la festivité est différente, donc ça peut gêner certains, sur la piste de danse pareil, hein. Tu vois, il y a des codes sur la piste de danse, il y a des danses en ligne qui se forment, sur des Madison, sur des, il y a des séries slow, etc. Et tu vois, les jeunes n'ont pas forcément ces codes-là, ouais. Donc bah, il faut leur apprendre, et ça se passe bien, ça se passe bien.
Et avant de nous quitter, n'oubliez pas, comme dirait Thierry.
Alors pour moi, je dis haut et fort que le meilleur danseur, c'est celui qui va sur la piste.
C'était la belle époque, la fête, c'était mieux avant. Merci à Thomas Mercier, Frédéric, Thierry, Michel, Gontran et Guillaume. Accompagnement Jérôme Berthaud, Clémence Alzard et Benoît Coquart. À la technique, François Salisson. Un documentaire d'Hippolyte Sansaigne et Victor Lai que vous pouvez retrouver sur paplard.fr.